il y a des familles ukrainiennes aussi. Alors, le message d'aujourd'hui sera traduit. Merci. Dieu répond aux prières. Toujours. Parfois, il fait un grand miracle. Par exemple, au Brésil, l'armée du salut était, on va dire, ici. Où on habitait, il y avait une rue. De l'autre côté, il y avait l'école que l'armée du salut gérait. Il y avait un pont. Et puis, de l'autre côté, il y avait un garage-bar. C'était une construction qu'ils ont fait là, et pour des fêtes, voilà, ça attirait beaucoup de jeunes. Le problème, c'était que c'était des fêtes avec beaucoup, beaucoup d'alcool. Et ça s'est passé plusieurs fois qu'il y avait des accidents ici. Normalement, au petit matin du vendredi au samedi. Je me rappelle deux fois en tout cas qu'une voiture, elle pouvait aller tout droit, elle a foncé contre le mur de l'école et puis a fait tomber le mur de l'école. C'est pas possible, ça doit être quelqu'un alcoolisé. Et on a commencé à prier pour la fermeture de ce bar. Les officiers de l'époque, les pasteurs, ils marchaient aussi pour faire des exercices le matin. Et chaque fois qu'ils passaient tous les matins, ils disaient, mais Seigneur, ferme cet endroit, parce qu'on ne veut plus que ces jeunes soient blessés à cause de l'alcool. Et quelle surprise, un matin où ils ont passé, le garage n'était pas fermé, il était détruit. Complètement rasé. Et puis on s'est informé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se peut d'un jour à l'autre le bâtiment il n'existe plus? En fait, ils avaient construit dans un terrain interdit que le gouvernement avait besoin. Du coup, un jour, le gouvernement est venu avec un bulldozer pour faire tout détruire. Parce que c'était dans un endroit illégal. Parfois, ça peut être un grand miracle comme celui-là qui nous a tellement surpris. On ne s'attendait pas. Parfois, ça peut être un petit miracle. Un jour, je réfléchissais à un passage pour la méditation des Ukrainiens du mercredi. Et je demandais au Seigneur quel passage je dois parler, sur quel passage de la Bible. Je partage avec Larissa, je n'ai pas d'idée pour mercredi. Qu'est-ce que je pourrais leur partager, Seigneur, je disais. Et j'étais sous la douche et tout d'un coup c'est venu ce verset de Matthieu 11, 28, venez à moi vous tous qui êtes fatigués de porter des lourds fardeaux. Et je me suis dit, ça c'est le bon verset. Et quand je sors de la douche, Clarissa me dit, quand je descends les escaliers, elle me dit, tu pourrais utiliser le verset de Matthieu 11, 28, venez à moi vous tous qui êtes fatigués. J'ai immédiatement des frissons. De tous les versets de la Bible, quelle est la probabilité qu'on ait le même verset au même moment, pour la même occasion? Ces deux exemples sont comme des feux verts, comme il y a dans l'image. On demande et Dieu dit oui. Mais quelquefois, Dieu répond avec un feu jaune. Et ça veut dire attends. En écoutant les Ukrainiens depuis qu'on est arrivé, on a remarqué que les cours que certains avaient recevaient,
vous n'avez pas une réelle continuité.
C'était un peu ici, un peu là-bas, trois mois sans cours, et puis...
Et j'ai partagé avec le conseil que je sentais que ce serait bien de pouvoir leur offrir un cours solide.
Et intensif.
Pour qu'ils apprennent pour de vrai le français.
Je voulais aussi engager une prof rémunérée.
Pour que ça soit la même personne qui les suive tout au long des deux ans.
Donc j'ai rédigé un projet, j'ai envoyé à ma chef.
Elle m'a dit non. Elle a dit, les autres sites de l'armée du salut offrent des cours seulement avec des bénévoles.
Pourquoi je vais autoriser Orbe à dépenser de l'argent pour payer une enseignante?
Elle préférerait autoriser l'emploi de cet argent pour un autre type de projet, pas pour des salaires.
Donc j'ai tout stoppé pour commencer à réfléchir si c'était possible d'offrir un cours solide seulement avec des bénévoles.
C'était clairement un feu jaune de Dieu.
Tu as envie de réaliser ce projet, mais attends.
Il n'y a pas encore toutes les pièces rassemblées.
Peu de temps après, c'est un autre département de l'armée du salut
qui me contacte sans parler à ma chef
pour me dire qu'ils ont reçu un don destiné aux Ukrainiens.
Et comme on travaille avec les Ukrainiens, ils m'ont demandé si j'avais un projet pour lequel je pourrais employer cet argent.
Parce que les autres sites de l'armée du salut qui travaillent avec les Ukrainiens avaient déjà des fonds pour le travail qu'ils faisaient.
J'ai dit qu'en fait oui, mais il fallait parler aussi à ma chef.
Et là, elle était pleinement d'accord.
Parce que c'était un fonds destiné à sa spécificité.
Donc, Dieu répond aux prières, mais parfois il répond avec un feu jaune.
Attends.
Et nous, on ne sait pas qu'est-ce que Dieu attend pour dire oui.
Parfois, il attend un changement de notre part.
Par exemple, notre manière d'être avec les gens.
Ou notre manière de voir la situation.
Ou de comprendre la volonté de Dieu.
Et d'autres fois, il est patient pour attendre un changement chez les autres.
Et parfois, il estime juste que ce n'est pas le bon moment et qu'il veut nous donner ça plus tard.
C'est comme Mélina qui nous disait fréquemment qu'il voulait un habit stylé.
Elle voulait de ses pantalons qui sont juste au corps ici et puis après s'ouvrent à la fin.
C'était la mode quand j'avais 14 ans.
Et puis on avait déjà acheté,
mais on a décidé de ne pas donner parce qu'on voulait lui donner seulement à la fin de l'année scolaire pour lui dire bravo parce que tu as bien travaillé.
Ça allait avoir plus de valeur
parce qu'on allait valoriser elle pour son travail.
Pas juste l'objet.
Du coup, la réponse était déjà là, mais on a attendu encore trois mois pour lui donner.
Donc Dieu répond aux prières.
Mais ce n'est pas comme un Selecta.
Regardez. Ce n'est pas un distributeur automatique.
On ne peut pas dire je veux une Mercedes,
Marie qui fait le ménage
et me réveiller demain avec 5 kilos de moins.
Ça ne marche pas comme ça.
Ça ne sert à rien d'essayer de manipuler Dieu avec de belles paroles. ou de faire toutes sortes de promesses pour les échanger quand le miracle le souhaitait. Dieu est toujours Dieu et c'est lui qui a le dernier mot. Mais le plus difficile, vraiment, c'est quand Dieu répond avec un feu rouge. Un non, bien rond. Et sans possibilité de revenir en arrière. Une des meilleures amies de Clarissa, avant qu'on vienne en Suisse, s'appelait Andresa. Elle venait très souvent chez nous pour faire compagnie à Clarissa, pour sortir avec elle quand on s'est mariés. Elles avaient le même âge. La première fois qu'elles étaient enceintes, elles ont découvert avec une semaine d'écart. Donc elle a fait tout l'accompagnement de grossesse, tout allait bien. Clarissa a eu Mélina. Andresa a eu un joli petit garçon. L'enfant grandissait bien, il a fêté sa première année. Tout d'un coup, des taches bleues sont apparues dans la jambe de la maman. Elle avait une date pour un rendez-vous chez un médecin. Et les amis proches ont commencé à prier pour elle. Nous aussi. Avant le rendez-vous, un samedi, elle s'est réveillée avec beaucoup de douleurs. Elle est allée aux urgences. Toute l'église s'est levée pour prier pour elle au Brésil. Et même comme ça, d'une manière très abrupte, elle est partie à peine à 30 ans. C'était la première fois depuis de longues années que j'ai réellement pleuré. Ouais. Ou alors ce qui s'est passé vendredi ici dans notre salle. Vendredi, on a reçu un groupe d'enfants ukrainiens dans notre salle pour un goûter. Je montre les photos avec l'autorisation des parents. Ils ont autorisé. C'est un groupe qui a fait une semaine de vacances en Suisse. Et qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces enfants? Ils ont tous un des parents qui est décédé sur le front. Quand on les a rassemblés pour la dernière photo, un des enfants a voulu écrire sur le tableau 46.
Tu peux répéter s'il te plaît?
Ah, il a voulu écrire 46.
On a regardé la passage 46, la deuxième.
On a demandé à Tamara ce que ça voulait dire. Et puis c'est le garnison, comment on appelle?
Oui,
oui, mais moi je sais pas.
C'est le garnison où tous les parents ont servi.
Oui. Ils ont tous servi dans cette même garnison. Est-ce que certains de ces enfants n'ont pas prié pour que Dieu protège leurs parents sur le front? Certainement que si, ils ont prié. Pourquoi Dieu a répondu non? Pourquoi? Ça semble tellement injuste. C'est une des questions les plus difficiles à répondre sur le caractère de Dieu. Mais la Bible est beaucoup plus courageuse que nous. Elle n'a pas honte de parler de personnes qui ont prié et qui ont reçu comme réponse un feu rouge. La Bible parle par exemple du roi David. Il a jeûné et prié pour son fils qui était malade. Et la Bible dit que Dieu a dit non. La Bible parle de Paul qui avait un problème physique. Et il a insisté dans la prière pour être délivré. Mais Dieu a dit non. Et même Jésus d'ailleurs a fait des prières qui n'ont pas marché. Par exemple, il a prié que tous les disciples qui croiraient en lui deviennent un.
Он молился о том, чтобы все ученики, которые за ним следовали, чтобы они стали
целым. Et c'est vrai dans certains contextes, à certaines époques, on a été unis et un.
Чтобы в какой-то момент, в каком-то контексте, мы все хотели, чтобы мы были объединены.
Mais en regardant globalement, les chrétiens peuvent être très fréquemment divisés.
Но посмотреть глобально на вещи, то христиане очень массово разделены.
Même pour les petites choses. Mais j'aimerais m'arrêter sur une prière très sincère qu'il a faite dans un moment d'une immense angoisse et que Dieu a répondu non. Jésus était sur le point d'être emprisonné et d'être mis à mort. Et il le savait. La Bible dit qu'il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il va dans un jardin et il commence à être envahi par la peur et par l'angoisse. Et il dit à ses amis, mon âme est triste à en mourir. Restez ici éveillés. Parfois, la tristesse est aussi grande qu'un océan. Elle est froide, elle est vide. Comme si on était petit et seul, là au fond d'un bocal de confiture vide. Et Jésus connaissait cette tristesse-là. Et le texte dit, saisis d'angoisse, Jésus prie avec plus d'insistance. Luc dit qu'il transpirait de grosses gouttes. Et il disait Abba Père. Pour toi, tout est possible. Pourtant, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Pourtant, ne fais pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Dans son angoisse, il demande à Dieu, permette que je ne souffre pas. Mais Dieu répond, non. Et la tristesse et la douleur ont été tellement grandes qu'il a dit sur la croix, pourquoi m'as-tu abandonné? Même Jésus s'est senti abandonné de Dieu. Si le pourquoi de la souffrance est difficile à expliquer, je peux au moins parler sur comment faire face. Et mon premier point, c'est partage le poids avec des amis. Jésus décide de se montrer vulnérable à ses amis. Il n'essaye pas de montrer qu'il est fort.
Au
contraire, il dit, venez prier avec moi car je suis angoissé à mourir. Et il laisse ses amis voir qu'il pleurait, qu'il avait peur. Nous aussi, on n'a pas besoin de mettre un masque. Deuxième chose, n'enlève pas Dieu de l'équation. Quand on passe par des situations comme celle-là, on se demande pourquoi Dieu ne claque pas les doigts pour tout arranger. C'est profondément décevant de recevoir un non de Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? Mais dans son angoisse, Jésus décide de prier. Il commence sa prière avec Père. Ça semble absurde de continuer à appeler Dieu Père quand on a crié désespérément pour son aide et il n'a pas répondu. Mais retirer Dieu de l'équation, abandonner son amour, ne va pas apporter plus de consolation. Bien au contraire, si Dieu n'existe pas, alors là, la souffrance est encore plus absurde. On sera juste un animal évolué dans un monde qui n'a pas de sens. Et la souffrance n'aura aucun but. Mais rester attaché à Dieu quand les choses vont mal nous donne de l'espoir. L'espoir d'être secouru et consolé dans la détresse. Et que même si on ne comprend pas, Dieu sait pourquoi. Et dernière chose, quand tu seras prêt, prie la prière de renoncement. Qui dit, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. En disant ça, Jésus nous invite à croire que la sagesse et l'amour de Dieu vont au-delà de notre incapacité à comprendre. C'est cette conviction qui nous permet de s'abandonner pour dire non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il y a un théologien écossais appelé Peter Forsyth. Qui a bien résumé l'espérance chrétienne face à la souffrance. Il dit, nous serons un jour dans un lieu où nous comprendrons avec gratitude que les plus grands refus de Dieu étaient quelquefois les plus authentiques réponses à nos plus authentiques prières. Dire que même le nom de Dieu, c'était une réponse dans sa perspective à ce qu'on voulait le plus profondément de notre cœur. Mais il faut la foi pour le croire. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ton exemple. Ça ne rend pas plus facile. Mais au moins, il y a la consolation. Que Dieu peut donner dans les souffrances. Et on veut s'accrocher à ça. On veut recevoir la conviction de notre cœur que c'est vrai. Pour pouvoir s'accrocher à ça. C'est ce qu'on te demande pour notre vie. Et pour tous ceux et celles dans cette salle qui souffrent. Au nom de Jésus, Amen.
Je vous invite.